La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent « Nouveau regard sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Au menu ce soir, tout d'abord, tel qu'annoncé la semaine dernière, la suite de l'entrevue avec l'historien et éditeur Denis Vaugeois, qui vient nous entretenir du livre « 1763, le traité de Paris bouleverse l'Amérique », paru en 2013 chez Septentrion. Un essai sur la conquête. Et en deuxième partie de l'émission, nous recevons le juriste et professeur en sciences politiques Marc Chevrier, qui a fait paraître en 2012 chez Boréal « La République québécoise, hommage à une idée suspecte », un ouvrage pour lequel il s'est vu décerner le prix Richard Arès. Bonne émission.
Dans la tradition britannique, on peut fonder un État de deux façons. Une, c'est bien sûr un contrat implicite entre le souverain et ses sujets. Autre façon de créer un État, c'est par une conquête. Et ça, c'est ce que dit Hobbes de manière magnifique dans son grand traité, le Léviathan. Et pour lui, créer un État par contrat ou par conquête, c'est la même chose. Une conquête vaut un contrat entre les sujets et le souverain. Et le Canada s'est fondé sur une conquête. Ce n'est pas juste un événement militaire. Ce n'est pas juste quelque chose qui doit alimenter la chronique militaire. Bien sûr, c'est important de le souligner, mais c'est structurel. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Canada, dans son histoire, n'a jamais senti le besoin de se refonder sur une constitution approuvée par le peuple. Parce que la conquête lui a fourni le contrat dont il avait besoin pour s'édifier. Regardez notre histoire. Et en fait, on pourrait même dire qu'il y en a eu plusieurs conquêtes dans notre histoire.
Des bords lointains de la Tamise, l'Anglais orgueilleux conquérant, gouverne en province conquise, les rivages du Saint-Laurent. Abat l'étendard britannique, arborons les nobles couleurs, fondateurs de la République, prison d'enfer, séchons nos pleurs. Les tyrans souillent notre histoire, pour eux l'opprobre, à nous la gloire. En avant, soldats, marchons au combat, compagnons, bravons la bombe et ses éclats, la mort ou la victoire, la mort ou la victoire.
En levée de rideau ce soir, Robert Comeau poursuit son entretien avec l'historien et éditeur Denis Vaugeois au sujet de cet ambitieux ouvrage intitulé « 1763, le traité de Paris bouleverse l'Amérique ». Ce livre, paru chez Septentrion en octobre 2013, a nécessité la collaboration d'une quinzaine d'historiens sous la direction de Sophie Imbault, Laurent Vessière et de Denis Vaugeois.
Nous recevons aujourd'hui l'historien et éditeur spécialiste de l'histoire de l'Amérique française, je dirais de l'Amérique britannique, espagnole et amérindienne, Denis Vaugeois. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Vous venez de diriger avec Sophie Imbault et Laurent Vessière, qui est un autre spécialiste de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, un ouvrage collectif intitulé « 1763, le traité de Paris bouleverse l'Amérique », un gros ouvrage de 400 pages publié chez Septentrion. Et vous avez aussi, à peu près en même temps, publié avec Gaston Deschênes un autre ouvrage intitulé « Vivre la conquête » à travers plus de 25 parcours individuels où vous présentez des gens de toutes conditions qui ont vécu la défaite de la Nouvelle-France. Donc, on peut dire que vous travaillez actuellement sur la défaite ou la conquête britannique.
C'est-à-dire qu'on a décidé de réparer un oubli que le gouvernement fédéral a maintenu toute l'année 2013 parce qu'ils ont évité constamment tout projet qui pouvait rappeler la signature du traité de Paris. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Le traité de Paris, c'est le traité qui met le Canada actuel au monde, hein, parce que c'est la fin de la Nouvelle-France et c'est le début du régime britannique. Alors, on nous parle de la guerre de 1812-1813, mesure de diversion, finalement. Mais alors, donc, pour le traité de Paris comme tel, qui était, pour moi, qui est une, probablement la date la plus importante de l'histoire du Canada, pas un mot. Alors, nous, on a décidé qu'on en parlerait.
Alors, dans cet ouvrage collectif, vous avez toute une brochette d'auteurs qui parlent de différents aspects. Alors, le livre est simple, c'est l'avant, le traité et ce qui est venu après, ouais. C'est-à-dire l'impact du traité. On va suivre à peu près le même ordre pour aborder votre livre. Est-ce que le traité de paix, le traité de Paris, va être célébré par des fêtes fastueuses en France? Est-ce que ça va être vu comme quelque chose de souhaitable?
Oui, Alain Laberge revient là-dessus. Il y a effectivement des fêtes. Est-ce que ça veut dire que les Français ont l'allégresse au cœur? Ça veut dire que c'est la fin de la guerre. La guerre a coûté cher. Une guerre, c'est toujours une guerre. Donc, les gens soupirent d'aise parce que c'est fini. Et puis, bon, ben, pour se donner belle contenance, ben, les autorités organisent des feux d'artifice et des fêtes. Ben, on remarque qu'en Angleterre, ils essayent de faire la même chose. Et puis, les Anglais n'ont pas le cœur à la fête. Ça, c'est bizarre, hein? On leur dit pourtant qu'ils ont gagné la guerre, mais apparemment, les fêtes ne sont pas réussies en Angleterre.
Donc, il n'y a pas de regret de la perte du Canada. Au fond, on est heureux que la guerre soit terminée, point.
Parce que quand on parle d'abandon, là, finalement, c'est peut-être dans la tête des Français. Ils l'ont oublié très vite. Hein? L'abandon, il est là, dans leur tête. Écoute, réalisons ça, là. Hein? La France, à partir de 1763, là, pour les Français, pour la France, le Canada n'existe plus. Les Canadiens n'existent plus. Et quand on les redécouvre vers 1830 avec De Vigny ou Tocqueville, c'est une grande découverte qu'ils font. « Hey, il y a des Canadiens d'origine française là-bas. » Puisque ça fait depuis 1763, ils ont complètement oublié notre existence.
C'est un fait que j'ai toujours été surpris en lisant les ouvrages sur l'Empire colonial français de voir le peu d'espace occupé par la Nouvelle-France ou le Canada.
C'est pas
grand-chose dans l'Empire français. Non. Si on arrive maintenant après le traité de Paris, vous avez un article de Charles-Philippe Courtois qui analyse l'ouvrage du chanoine Groulx, Lendemain de conquête.
Ouais.
La publication de Groulx en 1920, le lendemain de conquête, apporte une interprétation nouvelle, dit-il, quant aux effets de la conquête. En quoi c'est original? Est-ce que déjà, on voyait d'une façon providentielle, mais à partir de Groulx, on a commencé à avoir un point de vue plus critique?
Je ne sais pas trop, parce que c'est clair qu'au lendemain de la conquête, par exemple, quelqu'un comme Monsieur Briand, qui est nommé évêque, ben, ce que tu veux, il doit son poste d'évêque au changement de régime. Fait que, il y a un certain nombre de personnes comme ça qui y trouvent leur intérêt. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais tranquillement, des historiens vont commencer à voir ça d'un œil plus critique en disant, mais c'est un changement de régime, c'est la fin du peuplement français, c'est la fin du soutien de la France, c'est la fin de la perspective d'arriver d'un statut de colonie à celui de nation, comme c'était le cas pour le Brésil avec le Portugal, comme les colonies espagnoles sont devenues la vingtaine de pays qu'on connaît en Amérique du Sud, comme les colonies anglaises ont donné naissance aux États-Unis, mais nous autres, c'est fini. Ça n'arrivera pas ici. Donc, on regarde la conquête, c'est-à-dire le traité de Paris, comme étant une conquête, et puis ça va être pris encore plus fortement par Guy Frégaud et l'École de Montréal. Mais à côté de ça, il y avait l'autre école à Laval qui disait « Ah non, finalement, ça nous a amené à faire entrer dans l'Empire britannique au bon moment, alors que la Grande-Bretagne devient maîtresse du monde, et on profite, si tu veux, d'appartenir à une grande famille. » Bon, écoute, c'est un débat un peu stérile parce qu'il y a les deux. Il y a les deux, c'est clair. Quand on rentrait dans l'univers britannique, il y a des choses qui viennent avec ça. Et puis, le fait d'être coupé de la France, ça veut dire aussi que, jusqu'à aujourd'hui, ça exclut un certain nombre de perspectives d'indépendance, on va dire au moins ça.
Dans un autre article, Donald Fison, de l'Université Laval, se demande si la réconciliation des élites britanniques et canadiennes, dans la période 1760-1775, est une reconnaissance mutuelle ou une simple rhétorique intéressée. Vous avez une opinion là-dessus?
Ben, je trouve d'abord le thème de Donald très...
Une reconnaissance mutuelle, ça fait un peu...
Non, mais c'est beau, hein? Mais Donald, c'est Donald, hein? C'est Donald Fison. Alors, il renie pas ses origines quand il écrit ça. Il fait carrière à l'Université Laval. C'est un très beau thème. Le thème de la réconciliation, on n'y pense pas, mais lui, il pense parce que c'est un peu son histoire personnelle. Et donc, il y a un texte qui nous fait réfléchir. Puis, il exprime un point de vue. Puis, après ça, il y a un autre texte sur le serment d'Utesse en disant, ben, on a fait grand cas du serment d'Utesse, mais disant, en pratique, ça n'empêchait pas les gens d'accéder à certaines fonctions. Puis là, il faut chicaner un petit peu parce qu'il y a des fonctions quand même qui nécessitent la prestation d'un serment que les Canadiens ne peuvent pas prêter. Mais c'est ça, dans notre ouvrage, il y a un équilibre, voyez-vous.
Mais Fison, c'est intéressant, il dit « Le langage de la réconciliation, c'est surtout dans les discours. » Et sa conclusion est nette, il dit que les élites canadiennes et britanniques cherchent assez peu la réconciliation véritable. Mais j'avoue qu'il ouais, parle longuement des discours ouais, là-dessus.
Oui, mais encore là, la réconciliation, il y en a une réconciliation dans les faits aussi. Parce que les gens apprennent à vivre ensemble, il y a beaucoup de mariages mixtes. Le mariage mixte, c'est une forme de réconciliation, au moins momentanée.
Oui, à titre privé, là, on peut dire.
Oui, mais il y en a tellement là, que ça finit par représenter quelque chose.
Une autre question qui est dans le livre, c'est la question du serment du test, encore ouais. par Donald Fison. Est-ce que le traité de Paris garantissait une certaine tolérance face au catholicisme? Il montre comment, au fond, les Britanniques ont eu une approche pragmatique ouais. hein, face à ça.
Oui, ça c'est vrai, mais il n'y avait pas le choix. C'est pas une question de générosité.
On était les plus nombreux.
Pas rien que les plus nombreux, il y en a un que nous autres. Écoute, Murray, tout de suite, d'ailleurs, il se rend compte. Il dit à ses soldats, écoutez, ces gens-là meurent de faim. On va partager ce qu'on a. Puis son successeur, Carleton, va dire la même chose. Il faut les ménager. Écoute, cette colonie-là ne vaut rien sans sa population. Donc, on va ménager la population. Puis maintenant, le traité de Paris accorde la liberté religieuse, mais avec une petite restriction qui est quand même un peu inquiétante, en tant qu'elle permet les lois de la Grande-Bretagne. Et Murray va être intraitable là-dessus. Murray va dire, il n'y a pas question d'un rattachement à Rome. Écoute, Murray va aller tellement loin, il veut tellement pas d'évêques, qu'il dit, OK, c'est vrai, il vous faut des prêtres. Bon, il vous faut des prêtres. On vous a accordé la liberté de religion, soyons logiques. Ben alors, à la limite, formez des gens pour le sacerdoce, puis ils iront se faire ordonner à l'étranger, dans des pays amis. Ah, il va jusque-là, on raconte jamais ça, hein, parce que j'ai un article, en fait, qui insiste sur la fin des communautés. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais cet épisode-là est quand même intéressant. Mais finalement, Murray va dire, bon, finalement, on va céder, mais on va le choisir, l'évêque. On va le choisir, puis on va s'arranger pour pas qu'il y ait de lien avec Rome, etc., avec une puissance étrangère.
Une chose qui m'a frappé, c'est jusqu'en 1775, il n'y a aucun catholique qui n'a siégé au conseil du gouverneur. En fait, il y avait des noms français, mais c'était des Huguenots, comme oui. Pierre du Calvet et oui. d'autres. Oui. Alors, les Huguenots vont dominer même les tribunaux criminels jusqu'en 1770. Alors, on voyait des noms français, mais on ne faisait pas le lien entre catholiques et Huguenots. Et aussi, on peut dire qu'ils n'ont jamais appliqué les lois anticatholiques de Grande-Bretagne de façon stricte par nécessité.
Oui, mais vois-tu, on n'a pas bien étudié ça encore. Dans l'Acte de Québec, on dit que l'Acte de Québec, c'est la grande charte, c'est celle qui donne des libertés que le traité de Paris ne donnait pas, clairement, en tout cas. Mais quand on regarde l'Acte de Québec, là, ça ne va pas bien loin. Entre autres, il y a encore des réserves sur les communautés religieuses. L'Acte de Québec dit, écoute, liberté, 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 sauf pour les communautés religieuses. Ça, écoute, là, il y a un problème, là. Puis l'année d'après, on va préciser le sauf. Et c'est finalement, c'est que c'est terminé. Les communautés d'hommes ne pourront pas se recruter, sauf peut-être les sulpiciens, parce que c'est pas une vraie communauté d'hommes. Puis la communauté de femmes, ça, c'est correct. Ils vont pouvoir se recruter. Mais écoute, les autorités britanniques, là-dessus, sont très prudentes et finalement très négatives.
Un autre sujet, c'est évidemment la signification de la conquête pour les Autochtones. C'est un intéressant article d'Alain Beaulieu, là, qui a une chaire sur les Amérindiens. Et vous avez publié aussi un ouvrage sur les Hurons de Lorette, je pense, en 96. Alors, est-ce qu'il y a eu des traités conclus par les Britanniques avec les Micmacs, avec les Hurons? Est-ce qu'on parle de tout ça dans le traité de Paris?
Avec les Micmacs, il y a eu des traités à cette époque-là que je connais pas très bien. Mais la guerre de 7 ans, on parlait tout à l'heure d'abandon, là. Les Indiens ont abandonné leurs alliés français. Ça, au moins dire ça. Et quand les négociations se font, Vaudreuil, dans la capitulation de Montréal, il protège les Indiens. Il les protège dans une mesure où il peut les
donc,
protéger.
Donc, ils ne sont pas conquis comme les Français.
Ah non, ça, certainement pas.
Ils sont même protégés, en principe.
Vaudreuil essaye de les protéger. Et les Britanniques ne s'engagent pas à grand-chose. Mais finalement, on va dire les choses simplement, ce sont les grands oubliés. Hein, ce sont les grands oubliés du traité de Paris. Il n'y a aucune référence aux Indiens dans le traité de Paris. Puis le lendemain du traité de Paris, là, Amherst commet l'erreur de dire, bon, ben la traite maintenant, là, ça va se faire d'une autre manière, pas à la manière des Français. Les Indiens qui n'étaient pas trop sûrs d'avoir été perdants dans cette affaire-là, là, ils sont certains qu'ils ont perdu quelque chose. Et c'est la révolte de Pontiac.
Mais il n'y a pas eu de négociation entre les représentants des sept nations puis le surintendant britannique, là, Johnson. Ça, c'est peut-être avant?
Ah non, par exemple. Ça, c'est avant, oui. C'est en septembre 1760, après la capitulation de Montréal. Comme William Johnson avait dit aux Indiens, amis des Français, mêlez-vous pas de cette affaire-là.
Restez neutre, c'est ça. Restez neutre.
Puis quand Montréal sera tombé, là, on se verra. Donc, Montréal tombe le 8 septembre. Tout de suite, le 15 ou le 16, à Caughnawaga, Johnson réunit des représentants des domiciliés du Saint-Laurent, des Indiens qui étaient proches des Français. Et là, on convient d'un certain nombre de choses. Donc, on va vous maintenir dans vos terres. Vous allez pouvoir aller librement à Albany. Parce que la plupart des Indiens qui sont là, sud de Caughnawaga, c'est en général des gens qui viennent de la région de l'État de New York. Donc, on ouvre le chemin. C'est pas un traité qui a été vraiment négocié, mais c'est une rencontre qui est très importante, cette rencontre de Caughnawaga. Aujourd'hui, on va vous parler du traité de Murray, qui n'est pas un traité, puis on va vous parler du traité de Oswegatchie, qui n'est pas un traité non plus. Mais j'admets qu'à Oswegatchie, il y a eu une rencontre. William Johnson, Oswegatchie, c'est le long du Saint-Laurent, à la hauteur de Fort-Lévis, mettons. Alors, les troupes d'Amherst s'en viennent. Ils sont 10 000 hommes qui s'en viennent vers Montréal. Avellan arrive par le Richelieu. Murray arrive, lui, par le Saint-Laurent. Donc, ces trois troupes-là s'en viennent vers Montréal pour faire la jonction, pour anéantir Montréal. Ça veut dire 20 000 hommes à peu près. Les troupes d'Amherst qui remontent le Saint-Laurent, si Johnson n'avait pas réussi à neutraliser les Indiens qui étaient dans cette région-là, à mon avis, ils ne se rendaient pas à Montréal. Parce que déjà, juste remonter Saint-Laurent, à cause des rapides, des difficultés de navigation, déjà sans être attaqués, ils ont perdu énormément d'hommes et de bateaux. Donc, à Oswegatchie, c'est clair qu'il y a une rencontre qui est importante, mais ce n'est pas un vrai traité. Et à Oswegatchie, William Johnson leur dit, on se donne rendez-vous à Caughnawaga quand tout ça sera terminé.
Donc, les Britanniques vont quand même craindre assez longtemps les Indiens parce que dans l'Est, ils vont menacer Halifax à un moment donné, donc les Micmacs. Le soulèvement de Pontiac en 63, ben, il fait quand même 400 décès chez les Britanniques, chez les soldats britanniques.
Amherst est un peu rappelé à cause de ça, hein? Parce qu'à Londres, on ne comprend pas qu'Amherst ne vienne pas à bout des Indiens.
Oui, puis on comprend que les Britanniques ont besoin même de construire des forts jusqu'en 1763, parce que là, c'est pas fini pour eux.
Là, il y a l'épisode dont vous parlez pas, là, mais il faut le mentionner, parce qu'on dit toujours qu'à Amherst, il y a eu un débat là-dessus quand on a voulu parler de la rue Amherst à Montréal, sur le fait qu'il avait dit, bon, ben on n'en vient pas à bout, là. Ben, alors, vous allez leur transmettre des couvertures contaminées puis des mouchoirs infectés pour répandre la variole. Maintenant, on sait que Amherst a écrit ça, a dit ça à Bouquet, qui était, soit dit en passant, un huguenot. Il lui dit, écoute, s'il faut, là, vous rendez jusque-là. Hein? Mouchoir infecté, couverture contaminée. Sauf que quand ces instructions-là arrivent, il y a des gens qui avaient déjà pris l'initiative de le faire. Et là encore, c'est un huguenot, un Amélie Cuiller, qui a pris l'initiative. Et puis ça avait des effets. Hein? Les Indiens, ils l'attrapent comme rien, la variole. Et ça, c'est le grand drame indien. Donc, les Indiens étaient donc désespérés pour en venir à ces moyens-là.
Mais comment expliquer qu'avec la proclamation royale, Londres va accorder aux Indiens un immense territoire à l'ouest des Appalaches? Est-ce qu'on voulait empêcher l'expansion des colonies américaines vers l'ouest en faisant ça?
Tu es obligé de dire que vous avez des bonnes questions, hein?
Ben, je m'inspire de votre livre. Vous voyez au moins que je l'ai lu attentivement.
Oui, c'est des bonnes questions, puis il y a plusieurs réponses à une bonne question. D'abord, la proclamation royale, elle est faite un peu rapidement. Parce que normalement, celui qui était responsable de préparer les lendemains du traité de Paris, c'était Aigremont. Aigremont, le principal négociateur du traité de Paris. Donc, ça serait sa responsabilité. Si je me souviens bien, il meurt dans les semaines qui vont suivre. Et là les Britanniques, il faut qu'ils... Il y a du monde capable de prendre le relais après Aigremont, mais quand même, il y a un élément d'improvisation là, qui s'impose, là, parce que Aigremont avait tout ça dans la tête, mais là, il n'est plus là. Donc là, on improvise, à mon avis, cette fameuse proclamation royale, et on écrira. Puis c'est ajouté dans le texte, parce que ça, je l'ai vu, là, l'original, c'est ajouté, c'est « for the present », hein, pour l'instant, pour le présent, là. Okay. Alors, ce qu'on écrit là, c'est pas pour l'éternité. Parce qu'il faut quand même comprendre que la Grande-Bretagne a fait tout ça pour protéger les Indiens. Pour les protéger dans leur terre, là, franchement, faut pas rêver, là.
Ça calmait la pression, j'imagine.
Là, exactement. On voulait les calmer, et puis déjà la rivale de Pontiac...
Réduire la pression.
Absolument. Ça. Et en même temps, ben ça montre aux 13 colonies que c'est la victoire de Londres. C'est pas la victoire des 13 colonies. Alors, eux autres, on les contrôle maintenant. Et ça, c'est un affront pour les 13 colonies. Parce que de se faire bloquer l'expansion vers l'ouest, de se faire dire, non, à l'ouest des Appalaches, là, c'est pour les Indiens. Hey, mon œil.
Est-ce que ça va jouer dans le mouvement d'indépendance qui va se développer assez rapidement?
Oui. Moi, c'est une de mes théories. Ah bon? Une de mes théories,
Ça allait accélérer l'arrivée de l'indépendance
des 13 colonies. C'est un des déclencheurs pour moi. Oui.
Un autre article qui est fort intéressant d'Yvon Desloges qui analyse les changements qui ont été apportés par le changement de métropole quant aux habitudes alimentaires. c'est assez léger. Là, on voit d'arriver d'abord les nouveaux produits. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Vous avez déjà travaillé longuement cette question-là. Ouais, vous avez travaillé ces produits amérindiens, qu'est-ce que les Amérindiens avaient apporté. Ouais. Mais là, avec les Anglais, on a le jambon, le fromage, le lard, le bœuf salé et tout ça. Ça change les habitudes alimentaires.
Le bacon le matin. Moi, je vais donner un exemple. En fait, c'est la pomme de terre. Je crois que la pomme de terre arrive avec les Britanniques. Les tentatives de cultiver la pomme de terre avant n'avaient pas donné beaucoup de résultats. Les Canadiens n'avaient pas le goût pour la pomme de terre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à mon avis, on parle de patate. Patate vient de potato.
Ben oui.
On a pris le mot français, on a pris le mot anglais, puis on l'a rangé.
Alors, c'est ça. Il nous raconte le thé, la betterave et le navet, l'eau de vie.
C'est très original, le travail de Deloge. Hein?
C'est intéressant. Le rhum américain, enfin, il donne tous les nouveaux produits qui arrivent à ce moment-là.
En passant, dans Vive la conquête, il fait deux biographies de gens qui sont des cuisiniers. Un qui est au séminaire de Québec, puis c'est les cuisiniers qui perdent leur emploi à cause de la guerre. Alors, ils se convertissent en traiteurs.
Ah ouais.
Ou en restaurateur, on dirait aujourd'hui.
Moi, il y a deux choses qui m'ont amusé. La consommation de pain aurait chuté énormément entre 1760 et 1820, alors que les Français étaient grands consommateurs de pain. Et il y a aussi l'arrivée de la dinde avec la sauce au canneberge, on doit ça aux Britanniques.
Ouais.
Enfin, c'est un chapitre assez amusant.
On néglige rien. Hein?
Ah non, tout est là. Finalement, Alain Laberge de Québec parle du régime seigneurial après la conquête. Ouais. Il dit que le régime est de plus en plus contraignant pour les censitaires à la fin du régime français. Les seigneurs ont été rassurés par le traité de Paris, si je comprends bien. Et il y a quand même eu des gestes d'ingérence.
Surtout par l'acte de Québec. Hein. C'est surtout l'acte de Québec qui confirme le maintien du régime seigneurial. Parce qu'il y avait une zone un peu obscure après 1763. Je pense même qu'il va y avoir quelques concessions, comme on dit en franc, comme un socage, qui est l'alternative au régime seigneurial. Mais avec l'acte de Québec, là, c'est maintenu. Mais attention, et d'ailleurs, Laberge devait nous donner un décompte, puis il ne l'a pas fait. C'est que ce qu'on voulait savoir, c'est combien de seigneuries vont changer de propriétaire. Parce qu'un très grand nombre de seigneuries, les plus belles, vont passer entre les mains du conquérant.
C'est les Britanniques qui vont acheter des seigneuries. Il y en a quelques-uns.
Ah, ils les achètent pas.
Il y en a qui ont été concédés. Par exemple, les seigneuries de Murray Bay, tout ça. Ça a été concédé à des officiers britanniques, Fraser et...
Est-ce que ça a été concédé ou transféré?
Il y a eu des gestes d'ingérence, c'est-à-dire qu'ils appellent ça comme ça, des gestes d'ingérence des Britanniques, en ce sens qu'ils concédaient les seigneuries directement à des officiers britanniques.
Ouais,
dans quelques cas, en tout cas.
Dans le
reste, c'est plus qu'ils vont acheter des seigneuries.
Je prends le cas toujours de ceux de Trois-Rivières avec Aaron Hart. Quand les seigneuries sont mises à l'encan, il y a inclus qui est capable de les acheter, puis ils sont mis à l'encan pour des valeurs ridicules. Ou encore, un phénomène très intéressant, c'est les Écossais. Les Écossais qui parlent français, un peu français, et qui vont décider de rester ici, et puis qui regardent autour d'eux, puis ils mettent l'œil sur les riches héritières canadiennes françaises. Par exemple, c'est Grant qui est seigneur de Longueuil, qui est un de nos premiers nobles, parce qu'elle, en même temps, elle a des belles terres, puis elle transmet un titre de noblesse.
Il y a eu beaucoup de mariages mixtes dans la noblesse chez les anciens Canadiens, on voit ça.
Oui.
Un autre chapitre, évidemment, il y en a beaucoup. Vous abordez la sociabilité au début du régime britannique, la vie culturelle qui est plus diversifiée, évidemment l'arrivée de l'imprimerie et tout ça.
Oui.
Et les loisirs, c'est assez amusant de voir que les promenades en carriole...
On veut parler des bienfaits de la conquête, mais c'est clair qu'il y a des éléments là. Entre autres, l'imprimerie va arriver, les journaux vont commencer, et ainsi de suite. C'est quand même positif.
Un petit détail, on dit que la mode, les vêtements qui arrivaient par les bateaux britanniques, c'était effectivement Paris qui avait produit tous les vêtements et les costumes qui arrivaient ici via Londres. Et finalement, vous avez fait un texte sur le sort de l'Église et des communautés religieuses. Comment, d'abord, le clergé est en chute libre. De 196 prêtres en 59, il en reste plus que 137 en 64 et ça dégringole. Alors, au fond, qu'est-ce qui arrive aux communautés religieuses? Les jésuites, les récollets, puis disons...
Oui, il y a des articles dans l'ouvrage où, là, par exemple, moi, je me donne comme exemple, où je vais écrire sur un sujet que je connais plutôt bien, OK? Mais des fois, c'est le contraire. Et dans le cas du sort des communautés religieuses, je l'ai écrit parce que je ne trouvais pas de réponse nulle part. Je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé des communautés religieuses. Honnêtement, je ne trouvais pas de réponse raisonnablement claire nulle part. Donc, j'ai décidé de faire la recherche et l'article répond à ça. Parce qu'on sait que dans la capitulation de Montréal, Vaudreuil dit, il plaide pour le maintien des communautés religieuses. Et Amos répond, les communautés de femmes, accordées. Les communautés d'hommes, c'est soumis au bon plaisir du roi. Après ça, j'ai demandé aux gens, mais alors, qu'est-ce qui est arrivé avec le bon plaisir du roi? Je n'avais pas de réponse. C'était jamais clair dans aucun des livres que je consultais. Fait que là, je pense que j'ai fait un article où c'est plus clair. Et en gros, c'est Murray. Murray qui surveille ça. Murray, il dit, attends un peu là. Les Jésuites puis les Sulpiciens, là, c'est tous des Français. Fait que là, il dit, franchement, là, les autres, ils ont perdu la guerre. Fait que, parce qu'ils ne pourraient pas rentrer en France, là. Ils me dérangent, eux autres.
Puis les Jésuites, je ne savais pas, mais en même temps, ils étaient chassés du Portugal.
Ah, oui.
Donc, il y avait un climat, peut-être.
Ah, on
se méfiait. On se méfiait.
Un mauvais dossier.
On se méfiait des Jésuites à ce moment-là.
Il y a un mauvais dossier, là. Oui.
Mais moi, je ne savais pas que l'évêque Briand avait été presque désigné par Murray. Il avait refusé l'autre et puis il voulait avoir Briand qui était plus loyaliste.
Plus à sa main.
Eh bien. Et puis, ils suggèrent aux Sulpiciens de vendre leurs biens.
Oui, dans le cas des parce que les Sulpiciens ont un argument qui est un peu embêtant pour Murray. Ils disent, non, vous vous méprenez, on n'est pas une communauté religieuse. On est des séculiers. Mais on vit ensemble, mais on n'est pas une vraie communauté. Donc, on n'est pas visité par les textes, les instructions que vous recevez. Et là, Murray va dire, bon, ben au moins, prenez vos distances par rapport à Paris. Et effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, ils font des papiers avec Paris, pour montrer qu'ils dépendent plus de Paris.
Mais c'est de la frime. C'est au cas où, parce que si jamais la France revenait, il y avait toutes sortes de possibilités de revenir en arrière.
C'est très intéressant, l'histoire des Sulpiciens. C'est très intéressant. D'abord, quand on fait de l'histoire comme vous et moi, on les voit arriver après 1763, puis on les trouve toujours un peu bizarres, hein, toujours un peu louches, toujours plus près des Britanniques.
Très loyalistes. Hein?
Très loyalistes. Ah, pendant la rébellion, par exemple, même l'Artigue, tu sais, il prend position contre son cousin, puis il interdit les sépultures pour les patriotes, etc. Il y a plein de... Quiblier travaille avec le chef de police, Leclerc. Alors, tu sais, où est l'explication? L'explication, c'est qu'ils ont toujours, même rendu en 1835-37, ils ont encore peur pour le sort des biens des Sulpiciens. Puis les biens des Sulpiciens, là, c'est pas un petit compte de banque, hein? C'est des biens immenses, immenses. Alors, jusqu'à cette époque-là, l'on les tient encore par une espèce d'épée de la motelesse en disant, soyez gentils, vous autres, soyez souples, sinon... On va vous régler votre sort.
Il y a eu le même problème avec le bien des Jésuites. Ça s'est réglé beaucoup plus tardivement.
Ah ben non, c'est pas pareil. Parce qu'en cas des biens des Jésuites, à la mort du dernier Jésuite, en 1800, tous les biens des Jésuites sont réquisitionnés par la couronne britannique. OK, c'est terminé. Il n'y a plus de biens des Jésuites. C'est quand les Jésuites reviennent. Nous autres, quand on est parti,
quand ils reviennent...
C'est même 1880 ou quelque chose comme ça. Ils reviennent beaucoup plus tard, les Jésuites. En tout cas, peu importe, mais c'est au milieu du 19e siècle. Donc là, ils disent, nous, on avait des biens ici. Où sont nos biens? Alors, vos biens ont disparu, terminé. Et là, tranquillement, il va y avoir des interventions pour leur donner une petite base. Duplessis va intervenir. Alors, même à l'époque de Duplessis, il intervient encore sur la question des biens des Jésuites. Mais ça n'a rien à voir avec les biens qu'il y avait quand ils ont été... pas quand ils ont été expulsés, en fait, ils ont été empêchés de se recruter. Et à la mort du dernier Jésuite, ils ont tout perdu. Les Récollets, à la mort du dernier Récollet, bien, les Récollets n'avaient pas de bien autant que les Jésuites. Ils ne perdaient pas grand-chose. Et ils ont joué de malchance parce que, entre autres, il y avait un couvent passé au feu, il y avait une église passée au feu, fait qu'ils ont pu... Puis le dernier des Récollets, ou le dernier dont on parle dans la vie de la conquête, c'est nommé Félix de Berry. Alors lui, il louait les biens des Récollets aux autorités, puis il se faisait payer une pension. Fait que, vraiment, là, il y en a pour tout le monde. Hein?
On va être obligé de mettre fin à notre entretien. C'est fascinant parce que vous répondez à travers ce livre-là à plein de questions concernant 1763. C'est un livre indispensable, je pense, si on veut creuser toutes ces questions où on voit le traité de Paris qui bouleverse l'Amérique. Alors, merci beaucoup, Denis Vaugeois, et à une prochaine.
Bien, merci.
Les tyrans souillent notre histoire, pour eux l'opprobre, à nous la gloire.
En avant, soldats, marchons au combat, compagnons, bravons la bombe et ses éclats, la mort ou la victoire, la mort ou la victoire.
En avant, soldats, marchons au combat, compagnons, bravons, la bombe et ses éclats, la mort ou la victoire, la mort ou la victoire.
Vous venez d'entendre l'historien et éditeur Denis Vaugeois au sujet du livre 1763, Le traité de Paris bouleverse l'Amérique, paru en 2013 chez Septentrion. Vous écoutez Nouveaux regards sur notre histoire, sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Pour cette deuxième partie de l'émission, Robert Comeau reçoit Marc Chevrier, juriste et professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Marc Chevrier a fait paraître en 2012 chez Boréal l'ouvrage « La République québécoise, hommage à une idée suspecte » qui lui a d'ailleurs valu le prix Richard Arès. Marc Chevrier a aussi fait connaître en 2013 avec Louis-Georges Harvey, Stéphane Kelly et Samuel Trudeau les textes de la tradition républicaine dans un ouvrage qui a pour titre « De la République en Amérique française, une anthologie pédagogique des discours républicains au Québec de 1703 à 1967 ». Et en 2009, il publiait dans le Bulletin d'histoire politique un dossier sur le thème de l'idée de République au Québec.
Bonjour Marc.
Bonjour Robert.
Et parallèlement à vos travaux sur le républicanisme, vous avez publié de très nombreux articles sur l'enseignement supérieur, la critique humaniste et moderne de la réforme pédagogique au Québec, des études sur la pensée libérale, la politique canadienne, la politique française et américaine, la pensée souverainiste, le fédéralisme, les relations France-Québec et plusieurs articles à caractère juridique, en particulier sur une constitution québécoise. Dans votre ouvrage, vous refaites le parcours complet de notre histoire, donc vous vous intéressez à la période de la Nouvelle-France. Et à ce sujet-là, vous attaquez une idée largement répandue chez les historiens, les politologues, qui font de la Nouvelle-France un régime absolutiste et féodal. Pour vous, quelle était la nature du régime en Nouvelle-France? Parce que vous avez soutenu que les libertés dont jouissaient ses habitants étaient tellement grandes qu'à votre avis, la Nouvelle-France était même une république en gestation au sens moderne du terme. Alors, c'est quelque chose qui va à l'encontre d'à peu près tout ce qu'on entend sur la Nouvelle-France, en tout cas maintenant.
Oui, ben en fait, je me suis aperçu, c'est une raison pour laquelle j'ai mis un chapitre sur la Nouvelle-France. En fait, c'est un texte que j'ai remanié, qui avait été publié dans le Bulletin d'histoire politique, mais j'étais insatisfait de la première mouture, donc j'ai voulu le remanier. Je me suis aperçu que, en fait, quand on étudie les discours sur la nature du régime canadien, beaucoup d'auteurs envoient la Nouvelle-France. Pierre-Éliott Trudeau en est un très bel exemple. Pour prouver le caractère, comment dire, le manque d'inclination du Canada français à la démocratie.
Notre peu d'aptitude à
l'inhabilité du Canada français à la démocratie, c'est un des grands arguments de Trudeau. Un des arguments qu'il a invoqué, c'est le fait que nous aurions reçu une espèce d'atavisme de soumission et de féodalisme de la Nouvelle-France parce que nous étions des paysans soumis à l'absolutisme du roi et de ses gouverneurs et au contrôle du clergé. Alors, cette image a fait fortune, elle a été même reprise autant par l'historiographie anglophone que l'historiographie francophone. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que tous ceux qui écrivent sur la Nouvelle-France, d'abord, ne la jugent jamais d'après l'idée que se font les Français eux-mêmes de la monarchie. Souvent, ils la critiquent, mais à partir d'une idée anglaise de ce qu'est la monarchie française. Or, je trouve que c'est une curieuse méthode. Sans doute que c'était une monarchie, et ça, je ne le nie pas. Je ne nie pas non plus qu'il y a eu de l'absolutisme. Je n'ai pas voulu montrer le contraire. Mais je me suis dit, quel type de monarchie était-ce? Et je me suis dit, pour la juger, exhumons la conception française de la monarchie telle qu'elle est véhiculée par des grands penseurs, notamment Montesquieu. Mais il y en a eu d'autres que je cite dans mon texte. Et dans la conception française de la monarchie, le roi est certes souverain, mais ce n'est pas une souveraineté despotique. Le roi doit agir suivant les lois fondamentales du royaume et il doit agir avec justice. Donc, dans cette conception française de la monarchie, le roi est quand même soumis à des limites. Et dans la monarchie française, il y a des tribunaux, il y a des règles de droit. Et Montesquieu le dit très bien, dans une monarchie, on peut avoir un système judiciaire très développé. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que la Nouvelle-France correspondait en fait assez bien à cette idée française de la monarchie. Bien sûr, dans un cadre colonial, les communications étaient très lentes, il y avait peu d'habitants, etc. C'est pour cette raison-là que la Nouvelle-France m'a semblé être ce que j'appelais une république au sens classique, c'est-à-dire que des auteurs classiques comme Jean Bodin ou d'autres vont définir la république comme un droit gouvernement avec des familles et quelque chose de commun. Donc, l'idée qu'on a un gouvernement fondé sur le droit et quelque chose de commun. La monarchie ne suppose, dans la vision française, que les citoyens ou les sujets, parce qu'on parle davantage de sujets, ont quand même quelque chose de commun. Et Bodin donne des exemples, des murailles, des cités, des églises, des places publiques, etc. Donc, c'est une idée complètement à l'opposé de celle, par exemple, de Parkman, l'historien américain, qui va décrire la Nouvelle-France comme une société despotique, complètement atomisée, où les habitants de la Nouvelle-France sont quasiment ligotés ensemble pour vivre. Alors que si on les laissait à eux-mêmes, ils fuiraient, ils prendraient à la fuite, tellement le régime est pesant et inhospitalier. Donc, c'est cette vision des choses qui m'a semblé peu juste, que j'ai voulu corriger. Par ailleurs, la Nouvelle-France, si on la compare à la société d'ancien régime française, présentait, quant à moi, des différences notables. Une grande liberté sociale, une grande liberté de mœurs, même une capacité de se réinventer qu'un simple paysan français ne pouvait même pas goûter.
Comme le droit d'avoir des ateliers, je pense, hein, vous avez souligné.
Oui, le fait qu'on pouvait exercer plusieurs métiers, alors qu'en France, tous les métiers étaient lourdement réglementés par des corporations. Ensuite, le paysan français n'avait pas le droit de chasser. Il pouvait même être pendu ou très sévèrement puni s'il chassait sur les terres de son seigneur, etc. Il ne portait même pas d'armes. Alors que l'habitant français, en régime de seigneurie, en Nouvelle-France, porte des armes, se nourrit de la chasse et de la pêche. Et comme je l'explique, le régime de tenure de la seigneurie en Nouvelle-France est quand même une tenure beaucoup plus libre, même si elle comporte des contraintes, beaucoup plus libre que la tenure seigneuriale en France. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'avance peut-être un peu quelque chose pour un peu susciter la discussion. On n'est sans doute pas dans une république moderne au sens politique, puisque en Nouvelle-France, il n'y a pas eu de mouvement politique pour renverser la monarchie ou pour affirmer la souveraineté du peuple. Mais ce peuple a quand même existé. Il avait certaines libertés et on sait qu'il y a eu plusieurs émeutes pendant le régime qui montraient que les gouvernants ne pouvaient pas faire n'importe quoi.
Monsieur Chevrier, est-ce qu'on peut dire que l'impact de la vie sans entrave de l'Indien a eu un impact sur cette liberté républicaine, sur les colons français, le fait qu'il y avait la possibilité d'aller en forêt, d'aller faire le commerce de la fourrure?
J'explore sans doute de façon un peu spéculative cet aspect des choses. Malheureusement, beaucoup de nos coureurs des bois n'ont pas laissé de traité de pensée politique, donc ça nous aurait facilité les choses. Mais on sait qu'il y a eu des expériences, des contacts. Le contact avec les Indiens était une source extraordinaire de liberté pour ces hommes qui couraient les bois. Et ensuite, c'est aussi une source de désordre qui était une source de contestation pour le régime, puisque, au fond, la Nouvelle-France, c'était au fond, qu'est-ce que c'était? C'était une toute petite société politique de combien, quoi, 200, 300 fonctionnaires, une petite élite administrative qui couvre un territoire immense. Alors, ce n'est pas du tout une société où tout est contrôlé. Sans doute, peut-être, dans les quelques grandes villes que compte la Nouvelle-France, le contrôle social est plus pesant. Mais dès qu'on en sort, on est dans un monde de liberté. Et on peut penser, d'après certains témoignages, comme par exemple le dialogue du baron de La Hontan qu'on a reproduit dans l'anthologie, on peut penser que ce contact avec l'Indien a été une expérience radicale d'altérité pour les néo-français, c'est comme ça que je les appelle, qui ont découvert des sociétés où il y aurait une très grande égalité. La distance entre les gouvernants et les gouvernés est minime, presque inexistante ou peu visible. Et donc, c'est pas seulement une expérience culturelle, c'est peut-être même une expérience politique qui les a confrontés à un autre mode d'être. Et on sent très bien dans ces dialogues du baron de La Hontan qui énonce des idées qui vont faire fortune quelques décennies plus tard, pendant la Révolution française.
À quel moment apparaît la pensée républicaine? Est-ce que c'est avec les années 1830? Parce que j'ai vu que dans votre anthologie, vous aviez des textes antérieurs à cette période-là.
Oui, on a mis notamment le texte « L'appel à la justice de l'État », des extraits de Pierre de Calvet. Un texte que je connaissais de nom, mais sans l'avoir lu. En faisant cette anthologie, on s'est mis à le lire et tout. Et là, on s'est aperçu que de Calvet en fait un langage très républicain. Et il y a des passages saisissants où même il cite des grands théoriciens du droit naturel, Pufendorf, Grotius, pour contester la conception britannique du pouvoir, rappeler les libertés françaises. Il va justement critiquer cette vision qui s'est imposée par la suite que la Nouvelle-France est un régime despotique. Il va plutôt mettre en avant l'absolutisme anglais qui s'est installé au début, après la conquête. Et je trouve que son témoignage est intéressant parce que Calvet, étant protestant, a été au début associé au régime anglais. Donc, il n'a pas été exclu. On l'a même invité à exercer des charges, je pense, juge de paix. Donc, il a pu voir le régime de l'intérieur et il est malgré tout arrivé à cette conclusion. Donc, je ne dis pas qu'il a absolument raison, mais son témoignage, quant à moi, a une valeur extraordinaire. Et quand on regarde, par exemple, ses écrits, bien, il est l'un des premiers à formuler l'idée de créer un véritable parlement qui représente toute la population. Il ne fait aucune exclusion ou distinction entre colons anglais et colons français. Et il revendique même le droit à une représentation radicale, c'est le mot même qu'il emploie, de toute la colonie par des institutions élues. Donc, dans son langage, dans sa conception de la liberté et dans sa critique de l'absolutisme anglais qui s'installe après la conquête, par ses références aux grands théoriciens du droit naturel, etc., je suis arrivé à la conclusion, et nous sommes arrivés à la conclusion, que oui, il y a des éléments républicains chez Pierre de Calvet.
Alors, pouvez-vous nous parler de votre projet? La République québécoise, vous dites que c'est une idée suspecte, mais c'est une lecture qui est assez peu connue, en fait. Moi, j'ai appris beaucoup. Vous refaites toute l'histoire du Canada à travers un angle, une lecture assez particulière. On n'est pas familier à cette vision-là.
Oui, effectivement. D'où le sous-titre « Hommage au pluriel à une idée suspecte ». Puisque, en fait, vous disiez que j'ai commencé à écrire sur ce thème il y a quelques années, mais j'ai moi-même regardé ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai commencé à écrire sur cette idée à la fin des années 90. J'ai fait quelques textes publiés dans le magazine L'Agora, qui est maintenant une encyclopédie en ligne. Et en m'intéressant à ce sujet, je me suis aperçu de plusieurs choses. La première, c'est que très peu de gens ont étudié l'idée républicaine. Deux, très peu de gens la prennent au sérieux. Et par ailleurs, je constate que de manière générale, très peu de gens, je parle des juristes, des gens en sciences sociales, des historiens, étudient vraiment le Canada en tant qu'un régime politique. Et un régime politique, ce n'est pas seulement une constitution, ce n'est pas seulement des normes, c'est aussi des valeurs, c'est des visions du monde, ce sont des idées qui puisent souvent à la philosophie et à l'histoire et qui forment un tout cohérent et qui parvient, malgré les aléas, malgré le changement de génération, à se perpétuer. Et ce qui est assez remarquable quand on sort du Canada, c'est de voir comment ce pays a été si stable, et même plus stable que les Américains, qui, comme vous le savez, ont été déchirés par une guerre civile atroce. Et je me suis dit, comment se fait-il que personne ne réfléchisse sur le fait que nous vivions encore dans un régime de monarchie, bien sûr constitutionnelle. Et je me suis aperçu, à force de réfléchir sur cette question-là, que le monarchisme n'est pas seulement quelque chose de décoratif, ou un pur rituel. Ils structurent le langage même du pouvoir au Canada, y compris au Québec.
Vous dites que les Québécois demeurent encore les héritiers de la conception britannique de la démocratie. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est notre façon de concevoir l'action parlementaire, le fait que l'on accepte un gouvernement, par exemple des juges, plus facilement que le travail, disons, du Parlement? Est-ce que c'est parce que les droits individuels prennent plus de place que les droits collectifs? Qu'est-ce qui caractérise cette conception britannique de la démocratie?
Oh, il y a beaucoup d'éléments. Et je vous ferai remarquer que j'ai pas la prétention d'être quelqu'un qui connaît ou parfaitement bien la tradition britannique, mais je remarque que dans notre histoire, elle a déjà été très bien comprise. Regardez les hommes politiques canadiens-français du 19e siècle. Ils connaissaient leur histoire d'Angleterre. Ils la citaient. Henri Bourassa, Wilfrid Laurier, etc. Aujourd'hui, cette culture s'est perdue, mais nos institutions demeurent. Et j'ai l'impression que on a un peu perdu la compréhension de ce qui est à la base de notre régime. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre. Quelques idées que j'associe à la vision britannique de l'État ou de la démocratie. Il y en a plusieurs. La première, dans la tradition britannique, on peut fonder un État de deux façons. Une, c'est bien sûr un contrat implicite entre le souverain et ses sujets. Ça peut arriver lors de moments de crise, c'est arrivé lors de la glorieuse révolution de 1688. Le dernier des histoires a pris la fuite en France. Et là, toute l'élite de la nation se réunit en dehors du Parlement pour former une convention. Et c'est à ce moment qu'ils ont décidé que Guillaume d'Orange prendrait le trône. Autre façon de créer un État, c'est par une conquête. Et ça, c'est ce que dit Hobbes de manière magnifique dans son grand traité, le Léviathan. Et pour lui, créer un État par contrat ou par conquête, c'est la même chose. Une conquête vaut un contrat entre les sujets et le souverain. Et le Canada s'est fondé sur une conquête. Ce n'est pas juste un événement militaire. Ce n'est pas juste quelque chose qui doit alimenter la chronique militaire. Bien sûr, c'est important de le souligner, mais c'est structurel. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Canada, dans son histoire, n'a jamais senti le besoin de se refonder sur une constitution approuvée par le peuple. Parce que la conquête lui a fourni le contrat dont il avait besoin pour s'édifier. Regardez notre histoire. Et en fait, on pourrait même dire qu'il y en a eu plusieurs conquêtes dans notre histoire. Celle de 1840. On a complètement dissous le Bas-Canada. On a recréé, pour reprendre le langage des philosophes, une espèce d'état de nature. Et puis le Parlement de Londres va recréer à neuf une nouvelle structure.
On a aboli son Assemblée nationale.
Tout à fait. Et en fait, c'est un élément d'abord très important. Deuxième élément, dans la tradition britannique, la Constitution n'est pas la chose du peuple. La Constitution, elle appartient au gouvernant, au roi, aux parlementaires, voire aux juges qui l'interprètent et aux avocats qui l'invoquent devant les tribunaux. Et la Constitution n'est pas vue comme quelque chose faisant l'objet d'une réflexion rationnelle et délibérée, mais quelque chose qui est vu comme l'accumulation de précédents dont on hérite par l'effet des coutumes et de la tradition. Donc, cette vision, nous l'avons héritée. Et même si dans notre histoire, au Canada comme au Québec, certains ont parlé de la possibilité d'adopter une Constitution, leur voix n'a jamais véritablement percé, parce que tout le régime est fondé sur l'idée que le fait d'avoir une constitution non écrite en grande partie, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si nous avons des parties écrites comme la Charte des droits et libertés, ce type de constitution est encore la base de notre régime et n'est pas vu comme une anomalie. Autre élément, évidemment structurel, c'est que dans le système britannique, la souveraineté appartient aux parlementaires, enfin, à la couronne et aux parlementaires, et non pas au peuple. Un autre élément important, les ministres du gouvernement servent la couronne. Ils ne servent pas le peuple. Je dis bien, ils ne le servent pas dans le langage institutionnel. Ça n'empêche pas qu'un ministre élu puisse vouloir répondre aux désirs de la population. Mais dans le langage des institutions, un ministre sert la couronne, il ne sert pas le peuple. Et c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, tous nos députés, y compris l'Assemblée nationale, doivent faire un serment d'allégeance au souverain. Et dans la tradition britannique, on crée l'État, on crée le lien de l'État entre le sujet et le souverain, par le serment d'allégeance, qui est en fait une vieille pratique qui remonte au Moyen Âge, puisque au Moyen Âge, le pouvoir était conclu par une espèce de contrat féodal, par le serment entre le souverain et ses vassaux. Et donc, encore aujourd'hui, c'est comme ça au Canada qu'on crée de l'État. Ce n'est pas par une constitution adoptée par le peuple, c'est par le serment d'allégeance qui rappelle à tous les députés qu'ils ont été élus pour servir le souverain. Bien sûr, le souverain est quelque chose de symbolique, c'est l'État. Mais c'est un langage qui, à mon avis, n'est pas innocent, qui n'est pas purement décoratif et structure l'horizon politique dans lequel nous agissons. Et bon, il y a bien d'autres éléments. Par exemple, un élément qui, à mon avis, est très important, qui a un lien avec le débat que nous avons sur la charte, sur la laïcité. Dans la tradition britannique, comme c'est le souverain qui incarne l'État, le souverain et les fontaines de justice, il est divin. Divin dans la mesure où il est vu comme le défenseur de la foi. C'est d'ailleurs le titre que Henri VIII a reçu et tous les rois anglais l'ont porté par la suite. Et le titre officiel d'Élisabeth II, reine du Canada, c'est aussi qu'elle est défenseur de la foi en tant que chef de l'Église anglicane. Et ce titre qu'elle porte, une loi du Parlement fédéral a été adoptée, je crois, en 1953 pour définir le titre officiel de Sa Majesté. L'État anglais, ce n'est pas un État qui sépare l'État de la religion.
Donc, il n'y a pas de laïcité dans la vie britannique.
C'est-à-dire qu'il y a de la tolérance. Il y a de la tolérance, qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'État anglais s'est construit autour de l'idée qu'il y a une Église établie, qui est en fait une Église nationale, qui est l'anglicanisme. Et pour toutes sortes de raisons historiques, les Anglais ont dû d'abord accepter le fait que parmi les protestants, il n'y avait pas d'unanimité, puisqu'il y a eu des confessions protestantes non conformistes. Il y a eu les Écossais qui ont voulu leur propre église, l'église presbytérienne, d'une part. Et d'autre part, les Anglais ont dû trouver également des accommodements avec les catholiques, après les avoir opprimés, il faut le dire, pendant longtemps, puisque jusqu'en 1829, je crois, les catholiques en Angleterre n'avaient pas le droit de vote. Évidemment, ça visait l'Irlande, qui à l'époque faisait partie du royaume de Sa Majesté. Donc, l'État anglais va progressivement accorder à ses sujets des libertés religieuses, n'exigera plus l'adhésion à l'Église anglicane pour participer aux charges publiques, etc., pour exercer le droit de vote. Donc, il va développer une certaine tolérance, qui va même devenir très grande à l'égard de la diversité religieuse, mais l'État lui-même n'est pas séparé de la religion. Et ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc, on peut avoir de la tolérance, voire une certaine neutralité religieuse pour les employés subalternes de l'État, mais l'État lui-même n'est pas séparé de la religion. Au contraire, il y a un lien consubstantiel avec elle, et ce lien-là a été repris au Canada, et il est même énoncé de manière magnifique dans le préambule de la Charte des droits et libertés, qui dit, attendu, que le Canada est fondé sur la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Et vous remarquez que cette formule, qui est un peu longue, c'est une formule allongée de la devise de la couronne anglaise « Dieu est mon droit ».
Vous venez d'entendre l'entrevue que nous accordait Marc Chevrier, juriste et professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Marc Chevrier a fait paraître en 2012 chez Boréal l'ouvrage « La République québécoise, hommage à une idée suspecte » aux éditions Boréal. Nous diffuserons la suite de cette entrevue la semaine prochaine. Nous avons entendu la Canadienne, une chanson de la décennie 1830 reconstituée historiquement au musée de la maison Le Pailleur de Châteauguay et interprétée par le Quatuor de Lille. Ainsi s'achève cette émission. Nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal, au www.sociétéhistoriquedemontréal.org, en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel, qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain, 18h, sur les ondes de Radio Ville-Marie, à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.